Sixième partie. Dans les remous. Chapitre 22. Il est dans la nature de la politique, et plus encore de la présidence, de traverser de mauvaises passes. Des moments où, à cause d'une erreur stupide, d'une circonstance inattendue, d'une décision avisée mais impopulaire ou d'un manque de communication, la presse se retourne contre vous et l'opinion décide que vous n'êtes pas à la hauteur. Il faut généralement une semaine ou deux, parfois un mois, avant que les médias se lassent de vous traîner dans la boue, soit parce que vous avez réglé le problème, présenté des excuses ou remporté une victoire, soit parce qu'un sujet jugé plus important vous a chassé de la première page. Cependant, il arrive parfois que la mauvaise passe se prolonge, et alors vous vous trouvez dans la situation tant redoutée où les problèmes s'enchevêtrent avant de se coaguler en un discours plus général sur vous et votre présidence. Les articles négatifs s'accumulent pendant que votre popularité baisse. Flairant l'odeur du sang, vos adversaires politiques se mettent à cogner plus fort, tandis que vos amis se battent un peu moins pour vous défendre. La presse essaie de déterrer des problèmes au sein de votre gouvernement pour renforcer l'impression que vous êtes dans le pétrin. Et puis vient le jour où, à l'image des têtes brûlées et des inconscients qui tentaient jadis de descendre les chutes du Niagara en tonneaux, vous vous sentez ballotté dans les remous, vous êtes sonné et désorienté, impuissant à reprendre pied, vous n'attendez plus que de toucher le fond en espérant sans aucune certitude que vous survivrez au choc. Nous avons passé le plus clair de ma deuxième année de mandat dans ce tonneau. Nous l'avions vu venir, évidemment, surtout après l'été du Tea Party et le raffut suscité par l'Affordable Care Act. Ma cote de popularité, plutôt stable pendant les 6 premiers mois, avait diminué tout au long de l'automne. La presse devenait plus critique envers moi sur des questions importantes, ma décision d'envoyer des troupes supplémentaires en Afghanistan, mais aussi plus étonnante, le cas des Salahi, un couple d'arrivistes qui avait trouvé le moyen de pénétrer dans un dîner officiel et s'était fait prendre en photo avec moi. Et les ennuis ne s'étaient pas calmés pendant les fêtes. Le jour de Noël, un jeune Nigérian nommé Omar Farouk Abdul Muttalab avait embarqué sur un vol Amsterdam-Détroit de la compagnie Northwest Airlines et tenté de déclencher les explosifs cousus dans ses sous-vêtements. C'est un dysfonctionnement du détonateur qui avait empêché le drame. Ayant remarqué de la fumée et des flammes sous la couverture de l'aspirant terroriste, un passager l'avait maîtrisé et le personnel de bord avait éteint les flammes, permettant à l'avion de se poser sans encombre. À peine arrivé à Hawaï avec Michel et les filles pour 10 jours de vacances bien mérités, j'ai dû passer une bonne partie de mon temps au téléphone avec le FBI et mon équipe chargée de la sécurité nationale pour essayer de déterminer qui était exactement Abdul Muttalab, avec qui il travaillait, et pourquoi ni la sécurité de l'aéroport ni notre liste de surveillance des terroristes n'avaient pu empêcher qu'il monte à bord d'un avion à destination des États-Unis. Mon erreur au cours de ces 72 heures a été de ne pas écouter mon instinct, qui me dictait de m'exprimer à la télévision pour dire au peuple américain ce qui s'était passé et lui assurer qu'il pouvait voyager sans crainte. Mon équipe m'avait opposé un argument sensé. Il était important que le président attende d'avoir tous les faits en main pour s'adresser à la nation. Mais mon poste ne supposait pas uniquement de diriger le gouvernement ou de démêler le vrai du faux. L'opinion publique attendait aussi que le président décrypte un monde difficile et souvent terrifiant. Au lieu de paraître prudent, mon silence médiatique a donné une image d'indifférence, et nous n'avons pas tardé à subir un tir de barrage des deux côtés de l'échiquier politique, les commentateurs les moins charitables laissant même entendre que mes vacances sous les tropiques passaient avant les menaces contre la patrie. Pour ne rien arranger, Janet Napolitano, ma secrétaire à la sécurité intérieure, d'ordinaire imperturbable, a commis un lapsus lors d'une interview télévisée. À une question sur les manquements du dispositif de sécurité, elle a répondu « Le système a fonctionné. » Notre mauvaise gestion de la crise dite de l'Underwear Bomber a apporté de l'eau au moulin des républicains qui nous accusaient d'être trop tendres avec les terroristes et affaibli ma position sur des sujets comme la fermeture du centre de détention de Guantanamo. Et, de même que les autres bourdes et erreurs spontanées qui se sont produites au cours de ma première année, celle-ci a sans aucun doute participé à ma chute dans les sondages. Mais si j'en croyais Axe, qui passait ses journées à éplucher des données, triant et croisant les résultats par parti politique, âge, appartenance ethnique, genre, géographie et Dieu sait quoi encore, ma dégringolade à l'orée de l'année 2010 était attribuable à un facteur surpassant tous les autres. L'économie était toujours dans les choux. Sur le papier, nos mesures d'urgence, ainsi que les interventions de la Réserve fédérale, semblaient fonctionner. Le système financier était en état de marche et les banques en voie de retrouver leur solvabilité. Les prix de l'immobilier, quoique toujours bien en dessous de leur maximum, s'étaient au moins stabilisés, et les ventes de voitures américaines avaient commencé à repartir à la hausse. Grâce au Recovery Act, les dépenses des ménages et des entreprises avaient légèrement rebondi, et les collectivités locales avaient ralenti, mais pas encore cessé, les licenciements dans l'éducation, la police et les autres services publics. Partout dans le pays, de grands chantiers étaient engagés. L'activité reprenait après l'arrêt brutal de la construction de logements. Joe Biden et Ron Klain, son directeur de cabinet et mon ancien professeur de rhétorique, avaient admirablement bien chapeauté les aides à la relance. Joe, consacrant plusieurs heures par jour à décrocher son téléphone pour enguirlander les responsables étatiques et locaux dont les projets étaient en retard ou qui n'avaient pas fourni la documentation suffisante. Un audit a montré que, grâce à leurs efforts, seulement 0,2% des aides du Recovery Act avaient été abusivement dépensées. Un chiffre que pouvaient nous envier les entreprises privées, même les mieux gérées, si l'on considérait les montants et le nombre de projets en jeu. Malgré tout cela, les millions d'Américains qui essuyaient les répercussions de la crise avaient l'impression que, au lieu de s'arranger, les choses empiraient. Ils risquaient toujours de voir leur maison saisie. Leur épargne était réduite à peau de chagrin quand elle n'avait pas entièrement disparu. Et plus inquiétant encore, ils ne trouvaient pas de travail. Larry Summers nous avait prévenu que le taux de chômage était un indicateur différé. Les entreprises ne commencent à licencier que plusieurs mois après le début d'une récession et ne se remettent pas à embaucher avant la fin. Et ça n'a pas manqué. Alors que les licenciements ralentissaient au cours de l'année 2009, le chômage continuait à augmenter. Il a atteint son sommet en octobre, en franchissant la barre des 10%, son plus haut niveau depuis le début des années 1980. Les nouvelles étaient si invariablement mauvaises que j'en suis venu à avoir des crampes d'estomac le premier jeudi de chaque mois, quand le département du travail envoyait à la Maison-Blanche son rapport mensuel sur l'emploi. Katie affirmait pouvoir deviner le contenu du rapport en fonction du langage corporel de mon staff. Quand tout le monde fuyait son regard, ou parlait à voix basse, ou se contentait de déposer sur son bureau une enveloppe de papier Kraft pour qu'elle me l'apporte au lieu de patienter pour me la remettre en main propre, elle savait que nous étions partis pour un nouveau mois compliqué. Les Américains étaient déjà énervés, à juste titre, par la terrible lenteur de la reprise. Le renflouement des banques a été la goutte de trop. Qu'est-ce qu'ils ont pu haïr le TARP ? Ils se fichaient de savoir que le programme de relance avait mieux fonctionné que prévu, ou que plus de la moitié de l'argent donné aux banques avait déjà été remboursé avec les intérêts, ou que l'économie entière n'aurait pas pu commencer à redémarrer sans des marchés financiers requinqués. D'un bord à l'autre du paysage politique, les électeurs voyaient dans le renflouement des banques une arnaque qui avait permis aux barons de la finance de sortir relativement indemnes de la crise. Tim Geithner aimait bien faire observer que ce n'était pas tout à fait la vérité. Il détaillait le retour de flamme qu'avait subi Wall Street. Les banques d'investissement qui avaient plongé, les PDG dégagés, les parts de capital diluées, les milliards de dollars de pertes. Dans la même optique, les avocats du procureur général, Eric Holder, ont rapidement commencé à faire payer des dommages et intérêts records aux organismes financiers qui avaient enfreint la loi. Mais il était indéniable que les premiers responsables des malheurs économiques du pays demeuraient, pour la plupart, fabuleusement riches. Ils avaient pu échapper à la justice parce que les lois en vigueur estimaient que l'imprudence et la malhonnêteté crasse des conseils d'administration ou des salles de marché étaient moins condamnables que les actes d'un adolescent qui pique dans les magasins. En dépit des mérites économiques du TARP et de la logique juridique derrière la décision de ne pas lancer de poursuites pénales, toute cette histoire puait l'injustice. « Et mon renflouement à moi, il est où ?» entendait-on un peu partout. Mon coiffeur me demandait pourquoi les cadres des banques n'avaient pas fini en prison, ma belle-mère aussi. Les défenseurs du droit au logement voulaient savoir pourquoi les banques avaient reçu des centaines de milliards au titre du TARP, alors qu'une fraction seulement de ce montant servait à aider les propriétaires menacés d'éviction à rembourser leurs emprunts. Notre réponse, à savoir que, étant donné la taille du marché du logement, même un programme de l'ampleur du TARP n'aurait qu'un effet symbolique sur le nombre de saisies, et qu'il était plus utile d'utiliser les sommes additionnelles consenties par le Congrès pour redynamiser l'emploi, paraissait cruelle et peu convaincante, d'autant plus que les programmes que nous avions effectivement mis en place pour aider les propriétaires à refinancer ou à modifier leurs prêts avaient malheureusement obtenu des résultats en dessous de nos espérances. Souhaitant se soustraire à la colère de l'opinion, ou du moins se mettre à l'abri des tirs, le Congrès a créé de multiples commissions de surveillance, dans lesquels démocrates et républicains se succédaient pour dénoncer les banques, interroger les décisions des régulateurs et charger autant que possible le camp adverse. En 2008, le Sénat avait nommé un inspecteur général pour suivre l'application du TARP, un ancien procureur nommé Neil Barofsky, qui ne connaissait pas grand-chose à la finance, mais avait un certain talent pour susciter des titres tapageurs et qui a attaqué avec zèle nos prises de décision. Plus le risque d'effondrement financier s'éloignait, plus tout le monde se demandait si le TARP avait réellement été nécessaire. Et comme nous étions à présent au pouvoir, c'était le plus souvent Tim ou un autre membre de mon gouvernement qui se retrouvait sur la sellette, contraint de justifier ce qui paraissait injustifiable. Les Républicains n'ont pas hésité à profiter de la situation, en sous-entendant que le TARP avait toujours été une idée démocrate. Jour après jour, ils tiraient à boulets rouges sur le Recovery Act et notre politique économique en général, martelant que la relance n'était que l'autre nom d'une politique gauchiste délirante faite de dépenses électoralistes et d'engraissement des lobbies. Ils accusaient le Recovery Act d'avoir fait exploser le déficit fédéral que nous avait légué l'administration Bush, et, lorsqu'il daignait suggérer une autre politique, s'accordait à dire que le meilleur moyen de remettre l'économie d'aplomb serait que le gouvernement taille dans son budget et mette de l'ordre dans ses finances, à l'image des ménages acculés qui se serraient la ceinture aux quatre coins du pays. Mettez tout cela bout à bout, et au début de l'année 2010, les sondages montraient que les Américains étaient largement plus nombreux à désapprouver mon pilotage économique qu'à l'approuver. Un signal d'alarme expliquant en partie la perte du siège de Ted Kennedy dans le Massachusetts, mais aussi que les gouverneurs démocrates du New Jersey et de Virginie n'aient pas été réélus, alors que j'avais aisément remporté ces États à peine 12 mois plus tôt. D'après Axe, les électeurs que nous sondions ne faisaient pas la différence entre le TARP dont j'avais hérité et les mesures de relance. Tout ce qu'ils savaient, c'était que ceux qui avaient des relations s'en tiraient bien, tandis qu'eux tiraient la langue. Ils pensaient en outre que la solution républicaine consistant à répondre à la crise par des coupes budgétaires, ce qu'on appelle l'austérité en langage économique, paraissait intuitivement plus sensée que notre augmentation keynésienne des dépenses publiques. Au Congrès, les démocrates provenant de districts indécis, qui craignaient déjà pour leur réélection, ont commencé à prendre leur distance avec le Recovery Act et à éviter comme la peste le mot de relance. Ceux qui se situaient plus à gauche, récemment irrités par l'absence d'options publiques dans la loi sur la santé, reprochaient à la relance d'être trop timide et à Tim et à Larry d'être trop en cheville avec Wall Street. Même Nancy Pelosi et Harry Reid ont commencé à mettre en cause la stratégie de communication de la Maison-Blanche, tout particulièrement notre tendance à dénoncer le sectarisme partisan et les groupes d'intérêts présents à Washington, au lieu de durcir le ton avec les républicains. « Monsieur le Président, m'a dit un jour Nancy au téléphone, je répète à mon groupe que ce que vous avez accompli en un temps aussi court est historique. J'en suis extrêmement fier, croyez-moi. Mais l'opinion ne sait toujours pas ce que vous avez fait. Elle ne sait pas que les républicains sont insupportables et qu'ils essaient de faire obstruction sans arrêt. Tout ça, les électeurs ne peuvent pas le deviner si vous ne le leur dites pas. » Axe, qui supervisait le bureau de la communication, s'est mis en colère quand je lui ai relaté ma conversation avec la présidente. Il s'est écrié « Eh bien, elle n'a qu'à nous dire comment on fait pour communiquer sur un chômage à 10% !» et m'a rappelé que je m'étais fait élire sur la promesse de transformer Washington, pas de m'abaisser aux habituelles chicaneries partisanes. On peut taper aussi fort qu'on veut sur les républicains, on continuera à prendre l'eau tant qu'on n'aura rien de mieux à dire aux électeurs que « ça va mal, c'est vrai, mais ça aurait pu être pire ». Il avait raison. Dans une situation économique pareille, la communication ne pouvait pas faire de miracle. Nous savions depuis le début que la récession allait être difficile sur le plan politique. Mais Nancy, elle aussi, avait raison de se montrer critique. Après tout, c'était moi qui m'étais enorgueilli de ne pas nous laisser dicter notre réponse à la crise économique par les vues à court terme, comme si les lois de la gravité politique ne s'appliquaient pas à ma personne. Lorsque Tim m'avait dit craindre qu'un discours trop dur envers Wall Street ne dissuade les investisseurs privés de recapitaliser les banques et par conséquent ne prolonge la crise financière, j'avais accepté d'adoucir le ton, malgré les objections d'Axe et de Gibbs. Et à présent, une partie importante de la population croyait que je me souciais plus des banques que d'elles. Lorsque Larry avait suggéré que nous versions les réductions d'impôts du Recovery Act sous la forme d'une augmentation de salaire pour les classes moyennes, plutôt que d'un gros pactole parce que des études affirmaient que, de cette façon, les ménages seraient plus susceptibles de dépenser leur argent et donc de faire rapidement repartir l'économie, j'avais dit « Super, allons-y ». Bien que Ram m'ait averti que personne ne remarquerait une hausse aussi faible sur sa feuille de paie. Les sondages montraient que la majorité des Américains étaient convaincus que j'avais augmenté les impôts au lieu de les diminuer, tout ça pour financer le renflouement des banques, le plan de relance et la santé. Je me suis dit que Roosevelt n'aurait jamais fait ce type d'erreur. Il avait compris que, pour sortir l'Amérique de la Grande Dépression, le plus important n'était pas que le New Deal soit absolument parfait, mais que le projet global donne confiance, que l'opinion sente que le gouvernement avait les choses en main. De la même façon, il avait deviné que, en temps de crise, les gens ont besoin d'une histoire qui donne sens à leurs difficultés et les touche au cœur. Une histoire avec des gentils et des méchants bien définis, une intrigue facile à suivre et une morale. Autrement dit, Roosevelt était conscient que, pour être efficace, la gouvernance ne doit pas être aseptisée au point de négliger l'essence de la politique. Il faut vendre son programme, récompenser ses partisans, rendre les coups, donner de l'ampleur aux faits qui servent notre cause et glisser sous le tapis les détails qui nous embêtent. J'en suis venu à me demander si nous n'avions pas fini par transformer une vertu en vice, si, empêtré dans la noblesse de mes sentiments, je n'avais pas oublié de raconter aux gens une histoire en laquelle ils pouvaient croire, et comment, maintenant que j'avais abandonné le récit politique à mes détracteurs, j'allais pouvoir en reprendre les rênes.